pourrais vous proposer ce soir une réflexion sur le non-attachement. Qui est, on pourrait dire, le côté humain du refuge. Quand je prends refuge dans mon être, ou ma source, ou mon Bouddha intérieur, dans le Dharma, dans le Sangha, le lien au monde est forcément un lien de moins d'attachement. Le refuge dans le monde devient moins brûlant. Et la méditation, c'est un chemin, comme je l'ai déjà dit, mais de compréhension. De compréhension du corps, c'est-à-dire que la conscience habite ce corps. Et ce qui est intéressant, c'est que mieux j'habite ce corps, moins je me l'approprie. Plus je suis dans un état d'être dans ce corps, plutôt que dans un état d'avoir et de... Le corps comme un corps. Comprendre le niveau émotionnel, c'est ce qu'on a beaucoup travaillé pendant cette retraite, puisqu'une retraite met en lumière tous ces inaccomplis. En fait, nos attachements les plus puissants, ce sont ceux qu'on ne voit pas. Et en retraite, c'est le but, que les choses émergent en conscience. Et comme dit Joseph Goldstein, les réalisations ou l'éveil, ce n'est pas toujours les bonnes nouvelles. Mais la sagesse qui comprend, c'est que lorsque ces énergies émergent, c'est qu'elles commencent à vouloir lâcher. Elles commencent à nous dire... Regarde-moi. C'est tout ce système défensif qui n'est pas du tout l'ennemi à abattre, au contraire. C'est la protection que nous avons construite pour protéger notre enfant Bouddha, on pourrait dire, hein, pour protéger le cœur de l'être. Et qui, sous l'effet de la pleine conscience, commence à se dévoiler. Les voiles se dissipent. Mais ça n'est pas que nous voulons leur donner un grand coup de pied. C'est que nous faisons œuvre de connaissance, de compréhension. Et c'est une expérience... holistique, ça n'est pas une expérience mentale, c'est quelque chose que nous avons à vivre dans le corps, nous avons à rencontrer ces moments de tremblement où nous ne savons plus rien, je ne sais plus rien, wow. Je vais me perdre, je vais me perdre, c'est ok. Et on apprend que c'est ok parce qu'on y va, on le fait et on se rend compte qu'on ne meurt pas, quoi. Ou que si on meurt, mais quelle chance. Et on comprend aussi le mental, ça c'est un gros morceau. Que ce soit que le mental se mette au service de notre conscience intuitive, de notre sagesse, plutôt que ce soit lui qui mène le monde à l'intérieur. Pour certaines personnes, le mental se tait assez vite. Pour d'autres, c'est plus long. Mais il n'y a pas absolument besoin d'un mental totalement vide ou totalement silencieux pour que le travail se fasse. La concentration, c'est une concentration d'accès, suffisamment de concentration pour qu'on puisse contempler, pour qu'on puisse maintenir l'attention quand l'expérience est douloureuse. Mais on n'a pas besoin de faire un gros problème de l'état de la pensée. Simplement, régulièrement s'intéresser. Hein. C'est comment ben, là-bas en haut? Qu'est-ce qui se passe là-bas en haut? Et vraiment, de se demander qu'est-ce qui se passe là-bas en haut et puis de voir que c'est de l'agitation, ok, le moi, il n'est pas content, mais vous faites un bon travail. Hein. Et puis de regarder là-bas en haut puis de voir que le moi, il est tout calme et puis le moi, il est content. Il y a de l'orgueil, tout va bien, mais essayons de voir l'orgueil, c'est pas mal. Si on arrive à voir l'orgueil, pas mal. Donc nous essayons de comprendre, et à travers cette compréhension, le non-attachement s'installe, parce que le non-attachement, c'est une compréhension, c'est une sagesse. Mais c'est une sagesse énergétique, c'est tout le corps qui a compris. Je trouve chou parce qu'il y a une parole que j'ai déjà lue mais que j'ai retrouvée. Moi, j'ai toujours plus de paroles au fur et à mesure que la retraite avance parce que je retrouve mes paroles. Je les trouve toujours tellement bien. Ah ben voilà, je l'ai reperdue. Ah non, voilà. C'est une parole d'un petit livre qu'une de mes amies chrétiennes avait chez elle et puis qui s'appelle « Le Saint Petit Placide ». Puis il y a une photo de ce Saint Petit Placide, puis les paroles. Puis de temps en temps, il y en a une, c'est une perle. Parce que ça, c'est exactement ce mouvement entre le refuge et le non-attachement. L'homme fort est celui qui s'est enfoncé profondément dans la faiblesse du Christ. Écroulement de la force factice, du plein de soi, de l'agitation ridicule de la fourmi qui croit bâtir le monde. Tout anéanti, il dit « Seigneur, je ne suis plus rien ». Et à mesure que s'écroulait sa force humaine, la force de Dieu le remplissait. C'est ce retournement qui fait que de l'inquiétude existentielle, nous passons à la confiance. Mais la confiance gratuite, pour rien. Pas parce que j'ai un bon karma. Parce que les choses sont telles qu'elles sont. Et alors, le non-attachement, bien sûr, il travaille avec la première vérité, ce dukkha. Il y a dukkha. Nous sommes en chemin pour comprendre dukkha. À chaque fois que dukkha émerge, regardez la différence si je dis « Ah, tiens, il y a dukkha. » Ou bien si je dis oh, « Ça y est, de nouveau le mal de genoux, de nouveau le machin, là. Ah, ça c'est mes tendances. Ça y est, de nouveau mes tendances. » Dukkha, c'est dukkha. Énergétiquement, ça ouvre. Pourquoi ça ouvre? Parce qu'il n'y a plus cet attachement au moi qui voile notre conscience. Et à un moment donné, dukkha a été compris. J'ai compris. Et qu'est-ce que j'ai compris? J'ai compris que ce monde est dualité, que je peux continuer à chercher le bonheur dans ce monde, mais que ce n'est pas là que je l'aurai. C'est pas là que je l'aurai. J'aurai des moments de bonheur, bien sûr. que j'essaierai de faire durer, de reproduire, de... m'accrocher, À Nietzsche, l'impermanence n'est pas une idée, c'est un réel du monde. Et on peut le dire, le redire et le redire, parce que l'intégrer, c'est difficile. Il y a cette puissance de Tanha, la deuxième vérité, Tanha, la soif. Nous avons une soif d'existence qui est extrêmement puissante. Qui nous fait oublier, qui nous sommes vraiment. Et qui nous jette dans la peur de perdre. La soif d'existence, c'est une inquiétude face à la vie. C'est ce qu'il y a derrière. Nous meublons, ça crée une espèce de panique inconsciente qui fait que nous restons en surface, que nous restons dans nos désirs, les désirs que je dois absolument assouvir, absolument vivre. Et le problème n'est pas dans le désir il va toujours être là, mais il est dans le absolument, dans le je, dans l'intensité de l'attachement à moi. Et nous avons ce merveilleux outil de la présence. Je vois combien je suis attachée. C'est merveille de voir nos attachements. Il n'y a pas de... Ça n'est pas l'attachement le problème, c'est la non-conscience. Et il y a ces deux côtés de... Enfin, il y a trois aspects. Le Bouddha parle de trois aspects de la cause de la souffrance, qui est la deuxième vérité. Kamma Tanha, qui est l'attachement pour nos plaisirs et le rejet pour nos peines. Et ce que je disais hier, l'attachement au gain, le rejet de la perte, l'attachement à la réussite, le rejet de l'échec, l'attachement à la louange, le rejet du blâme. À sentir quand ça vient nous brûler, parce que c'est brûlant, c'est brûlant. C'est plus, je trouve, ces petites paroles. C'est plus, je vous ai tiré ça. Si tu rencontres le triomphe et le désastre, et que tu traites ces deux imposteurs de la même manière, tu auras découvert le secret. Il y a tous nos petits attachements, l'attachement à nos biens matériels, l'attachement à notre sécurité affective, psychologique, l'attachement à nos proches. L'attachement à nos opinions. Celui-là, il est bon, celui-là, il est mauvais. Très puissant. Tout le problème de Trump. Je vous ai rien raconté encore avec Trump, ou bien. Alors, je vais vous raconter. Il y a une copine qui est là dans cette salle, qui vient un coup chez moi, puis qui me dit « Ah ben, tu sais, j'étais chez une copine qu'on aime les deux bien, qui traduit des moines, qui est... Et puis elle, elle est pour Trump. Puis moi, ça m'a fait un truc. Je me suis dit, attends. Fouf, ça m'a fait un truc. Ça m'a ébranlé. Puis la copine est partie, on en a vu un peu, je sais pourquoi elle est partie, puis elle revient parce qu'elle a été chez une autre copine. Puis elle arrive parce qu'elle avait oublié quelque chose, puis elle me dit, eh ben, cette autre copine qui est aussi dans le dharma, qui, elle est aussi pour Trump. Alors là, ça m'a vraiment puissamment ébranlée, mais pas dans le sens des copines, c'est leur problème, Trump, j'en sais rien. Mais j'ai vu combien j'étais attachée, non seulement à mes propres opinions, mais au fait que tous les gens que j'aime bien, ils ont la même opinion que moi. Et puis que voilà, que c'est normal, que eux, mais c'était fort comme expérience, très très fort, comme remise en question de l'orgueil, hein, de cet orgueil, de l'attachement aux opinions. Alors, le problème du pardon, est-ce qu'on peut pardonner à Trump? Est-ce qu'on peut pardonner à Poutine? C'était une des questions ce matin. Et dans la question, c'était intéressant parce que la personne disait oh, « Mais quand tu dis qu'il faut pardonner comme ça, j'ai presque envie de te taper. » Je comprends. On donne tellement d'importance à nos systèmes de valeurs et à ce monde. Et c'est vrai que la souffrance est tellement... C'est dur, le dukkha est dur, la vie est dure. Et je pense que la méditation nous permet, en nous reliant et en nous connectant à quelque chose de plus profond à l'intérieur de nous-mêmes, de vraiment comprendre ce qu'est le monde. Et que le monde, c'est une impression. C'est une impression, même pour moi, avec mes bonnes valeurs. C'est aussi une impression. Et tous les gens qui entourent Trump, ils ont une autre impression. Et ils ont autant la certitude que... C'est leur valeur. Alors, qu'est-ce que c'est que l'engagement pour la justice, l'engagement pour la paix? Moi, j'ai beaucoup de reconnaissance pour les valeurs du monde. Elles se manifestent. Je développe Sila, je développe les préceptes, je soutiens ce qui a pour moi des valeurs bénéfiques. Mais si je me mets à haïr et à laisser la violence monter en moi, là j'ai un gros boulot à faire ici. Et nous pouvons nous engager tant que nous sommes dans une qualité d'engagement qui est une qualité de non-violence. Mais si la qualité de notre engagement change, à mon avis, c'est important de venir là. Et de sentir comme ça fait mal de haïr, comme ça fait mal de rejeter, et comme ça fait du bien de s'engager tout en gardant la personne dans son cœur. J'ai encore trouvé une autre petite phrase. Non, d'abord, je vais vous lire une parole de Solzhenitsyn qui a passé je ne sais pas combien de temps dans les camps. Si seulement nous étions tous plus simples, si seulement il y avait quelque part des gens mauvais qui commettaient volontairement de mauvaises actions et qu'il faudrait séparer du reste des hommes et détruire. Mais la ligne qui sépare le bien du mal traverse le cœur de chaque homme, de chaque être humain. Et qui parmi nous est d'accord de détruire un morceau de son propre cœur? Moi, je peux juste espérer que si je suis dans une situation où la haine émerge, ce qui va me venir, c'est des paroles de métta. Ça m'est arrivé une fois avec mon fils quand j'étais toute jeune, je méditais déjà. Puis, c'est toujours avec mon fils, on a un super karma. Et puis, il vient, je pense qu'il avait, il était tout jeune. Puis, j'ai senti qu'il m'énervait, merde, ça remonte comme ça. Et puis, ce qui est venu, que tu sois heureuse, que tu sois en paix. C'était bien. Que tu sois heureuse, que tu sois en paix. Ça a lâché l'autre. C'est venu là. Et en fait, c'est ça que nous pouvons faire. Quand nous sentons que nous prenons un bouc émissaire, que nous mettons notre violence à l'extérieur, il faut faire un travail intérieur. Là, j'ai trouvé une petite parole, je trouve super. La haine pour les autres, c'est comme de boire un poison en croyant que ça va les faire mourir. Et autant Thich Nhat Hanh que le Dalai Lama, toutes les personnes qui font un choix d'un travail ésotérique plutôt qu'un engagement à l'extérieur, c'est ce qu'ils véhiculent comme message. Hein. Quand on dit au Dalai Lama, mais enfin pourquoi vous songez pas une fois à lever une armée contre les Chinois, il dit mais les Chinois c'est que l'ennemi extérieur. Faisons déjà notre travail là. Il y a à faire. Lorsqu'on parle de non-attachement, évidemment, ce qui vient souvent, c'est « Oh là là, mais c'est affreux, je suis tellement attachée. » Et il y a de nouveau ce sens du moi qui se durcit, qui se sent coupable. C'est intéressant, la culpabilité. C'est très intéressant. C'est une manière, au fond, de ne pas prendre notre responsabilité. Il y a quelque chose qui nous dérange. Et puis au lieu de rencontrer, ça part en haut, puis ça crée quelqu'un qui devrait, qui aurait dû, qui faudrait que... L'attachement au moi. Voir comment, lorsqu'il y a cet attachement au moi, automatiquement, je me déconnecte. Et mon monde devient petit. C'est juste là. J'oublie qu'il y a l'espace, le silence, les autres. C'est important de sentir comment, sous la force de cette soif d'existence, j'ai pas envie de m'ennuyer, j'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie d'aller boire une tasse de thé, j'ai envie que le corps ait pas mal, j'ai envie que... Tout à coup, ce je devient étriqué, il y a quelque chose qui se sépare du tout. Et que sentir comment le je devient le point de référence, le centre du monde. C'était Carol Wilson qui disait, comment est-ce qu'elle disait ça, j'aimais bien. On se sent une petite merde, mais on est le centre du monde. Et c'est vrai, énergétiquement, c'est ça qui se passe. Hein, quand on s'oublie soi-même, quand on oublie ce refuge, et qu'on vient dans cette peur qui se manifeste par des désirs, parce que je fuis l'énergie du moment pour vite en mettre une autre. Il y a un oubli. L'attachement, c'est la libération du moi, mais c'est aussi la connexion avec la conscience universelle. c'est aussi une manière de savoir où puiser quand Dukkha arrive et comment faire. Et ça n'est pas linéaire. Des fois on sait, des fois on ne sait pas. Il y a des fois le fruit, des fois le chemin. Et il s'agit d'apprivoiser Dukkha, voir comment nous sommes attachés. Pourquoi est-ce qu'on s'ennuie en retraite? Ou pourquoi est-ce qu'on attend? J'attends que cette cloche sonne. En fait, l'expérience, c'est l'expérience du temps. Je fais l'expérience du temps. C'est merveilleux. Quand on fait la méditation marcher et puis que encore, là aussi, c'est ce lâcher prise du besoin d'existence. Et alors on est en contact avec ce tanha, avec cette soif de faire, de vivre, de mourir. L'attachement à mes valeurs, l'attachement au moi, l'attachement à mon endroit, à ma famille, à mon village, à mon... c'est beau si c'est lié à l'amour, mais si c'est lié à l'appropriation, c'est pas vilain, mais c'est souffrance, parce que c'est anicca, c'est impermanent. On faisait un petit exercice avec un groupe avec qui on étudie, qui était pas mal. On essayait de voir chaque fois que le contact, parce que l'attachement se crée dans ce qu'on appelle les cinq agrégats. Il y a un contact qui crée la perception, le ressenti. Et puis, à ce moment-là, on se projette vers le futur. Il y a des constructions. Et si vous observez bien, si vous avez une pensée qui émerge, un souvenir qui a un peu de jus, c'est le contact. Ça crée un ressenti. Prenons un exemple où c'est désagréable, c'est plus facile à voir. Un ressenti désagréable et puis une représentation. Hein, je sais de quoi il s'agit, c'est désagréable, ça va ensemble. Et à partir de là, ça crée un choc. En fait, il y a un choc, hein, un choc karmique. C'est un choc. On a toujours des chocs dans la vie, vous avez remarqué. On est touché, hop, un choc. Alors, il y a des chocs bénéfiques, des chocs non bénéfiques, mais il y en a toujours. Et c'est très intéressant de se focaliser juste sur ça. Choc, non choc. Parce que le choc dure un petit moment, puis après, c'est fini. Il y a autre chose. Alors, il y a des chocs qui durent très longtemps. Quand on a un gros deuil, le choc dure très longtemps. Mais tous ces petits chocs dans la vie, c'est fascinant de voir comment cette impermanence, elle est vraiment là. Il y a ce contact, pof. Et puis après, si je le saisis, alors ça fait durer. Si je le saisis par le mental, quelqu'un me dit quelque chose que j'aime pas. Ah ouais, mais non, c'est peut-être à cause. Et au lieu que le choc puisse faire simplement un senton de vie et puis non choc, ben, je le maintiens, mais c'est moi qui le maintiens. Lui, il a fait son boulot karmique. Voilà, on peut pas éviter. On peut pas éviter. Mais on peut éviter la suite. C'est ça notre boulot. Quelle est la réponse que je donne à tous ces chocs qui arrivent sans cesse dans la vie? Est-ce que je vais dans le monde ou est-ce que je vais dans le refuge? Et puis des fois, c'est un petit peu des deux, bien sûr. Hein? On est des êtres incarnés. Et on peut sentir, c'est important de sentir sans aucun jugement. On n'est pas dans une histoire de bien et de mal. On est vraiment dans une histoire d'exploration. Sentir comment, une fois que j'en sors, ah ouais, ben j'étais vraiment coincée. Puis c'était vraiment, c'était tout petit, hein, je voyais petit. Les chocs positifs sont aussi saisis. Et ce qui est embêtant, c'est quand ils passent. Et ils passent aussi. C'est pour ça que le bonheur ne peut être nulle part ailleurs que maintenant, finalement. Et ça n'est pas, quelqu'un disait, ouais, mais maintenant ma vie manque d'intensité, ça manque de joie. Tout va bien. Maintenant, il n'y a pas un qui la joie. La paix, c'est tout à fait autre chose que la joie. Disons la joie en tant qu'expérience personnelle. Hein. Mudita, c'est autre chose. C'est cette joie pour le bonheur d'autrui, cette joie spirituelle du partage de notre être essentiel. Je vous lis une petite histoire zen. Le moment où tu y es est suivi d'un moment où tu n'y es pas. Ensuite, le travail recommence, mais avec moins d'efforts. Et c'est vrai, quand on revient en retraite, on retrouve tout la même chose, c'est désespérant. Mais ça dure un peu moins longtemps. Encore une petite parole. Moi, j'aime bien ces petites paroles. Je trouve qu'elles, franchement, je les retrouve. Hein. Je les ai lues pour une fois. Je les retrouve, puis je trouve que c'est tellement parlant. J'adore ça. Si tu es là, parce que ça, je trouve que c'est vraiment exactement la méditation. Si tu es là et que la route te paraît longue, si tu t'aperçois que tu t'es trompé de chemin, ne te laisse pas couler au fil de l'eau. Recommence. Si la vie te semble absurde, si tu es déçu par trop de choses et de gens, ne cherche pas à comprendre pourquoi, recommence. Si tu as essayé d'aimer et d'être utile, si tu as connu ta pauvreté et tes limites, ne laisse pas là une tâche à moitié faite, recommence. Si les autres te regardent avec reproche, s'ils sont déçus de toi, irrités, ne te révolte pas, ne leur demande rien. Recommence. Car l'arbre rebourgeonne en oubliant l'hiver. Le rameau fleurit sans demander pourquoi. L'oiseau fait son nid sans songer à l'automne. Car la vie est espérance et recommencement. Et ça, c'est un encouragement lorsque je viens m'asseoir avant chaque assise. Comment est-ce que je m'assieds sur mon coussin? Est-ce que je suis dans ce « Ah, on va voir ce qu'il y a » Ou bien est-ce que je suis, ouais, alors avant, c'était pas mal à refaire. Et je vous encourage vraiment à être frais et à venir vous asseoir comme si c'était la première fois. Je recommence, mais je recommence à zéro. Commencez, c'est frais, je suis fraîche. Et puis après, peut-être que le même truc vient, puis que ça crée de nouveau l'agacement, tout ça. Mais au moins au début, commencez. Nous nous attachons énormément à la forme et ça nous coupe de notre énergie. Ce qui donne de l'énergie, c'est cette qualité consciente, cette qualité de connexion. Je sais que je suis là. Et c'est ça qui est prioritaire. Donc après, tout ce monde conditionné, impermanent, qui change, qui est merveille, mais qui est aussi franchement monstrueux, il est mis à sa place. Il est juste mis à sa place. Même Trump, même Poutine, ils ont leur place. Que vous voulez que je vous dise? Franchement, si on avait Gengis Khan, ce serait pas mieux. Jules César, c'était pas super. En tout cas, pas pour nous. Mais c'est vrai que c'est très... Quand quelqu'un parlait du fil du rasoir, ça fait envie, hein. Quelqu'un aurait dû Hitler, ça aurait quand même été bien. Eh ben non. Eh ben non. Mara, c'est pas quelque chose qu'il faut détruire. C'est quelque chose à apprivoiser et à voir que derrière Mara, il y a la lumière. C'est très très difficile, c'est très très délicat, très... Ouais, sacré défi qui est offert à l'humanité. Je voulais vous lire, je crois que je vous ai vaguement raconté, mais très mal, cette parole l'autre jour. Je crois que je voulais raconter, des fois j'ai des doutes. De cette famille qui accueillait des juifs à Rotterdam, je crois. Bref, je vous la lis parce que je trouve très, très beau.
Avec un
franc,
tu veux dire?
Hein?
Avec un franc.
Hein?
Pardon. Avec un franc, Rotterdam. Non, c'est pas grave.
C'est dans un livre qui s'appelle Dieu en enfer. Un très beau livre. Et c'est un homme qui arrive avec un bébé et puis qui propose à une des deux filles du monsieur, du père, de prendre ce bébé, de l'accueillir chez eux parce que voilà, la Gestapo fait des fouilles. Et accepteriez-vous de recueillir chez vous cette femme juive et son bébé? Le visage de l'homme, c'est un prêtre qui est chez eux. Le visage de l'homme perdit toute couleur. Il fit un pas en arrière. Mademoiselle Tenboum, j'espère que vous ne travaillez pas pour ces entreprises de dissimulation illégale. Ce ne serait pas prudent. Pensez à votre père. Je soulevais la petite couverture pour laisser paraître le visage du bébé. L'homme se pencha et malgré lui, sa main rechercha le petit point qui se refermait sur la couverture. Pendant un instant, son visage exprima un mélange de compassion et de crainte. Puis il se durcit. Non, vraiment non, ce petit juif pourrait nous mettre en danger. Mon père, qui à notre insu se trouvait sur le pas de la porte, intervint. Donne-moi cet enfant, Corrie. Papa tenait le bébé tout près de lui, effleurant sa joue de sa barbe blanche. Il regarda le petit visage avec des yeux aussi bleus que ceux du bébé. Vous dites que cet enfant pourrait nous coûter la vie. Je considérerais cela comme un grand privilège pour ma famille. Une autre manière de dire ce retournement. On a beaucoup d'idéaux. Dans la méditation, on travaille cet idéal pour qu'on soit à la hauteur. Et on ne sait pas, et on se pardonnera. Au cas où. Donc, le non-attachement va avec la confiance et la vision claire et l'éthique. Et cette vie conditionnée, ce qu'on attend dans notre quotidien quand on retournera chez nous, c'est quelque chose à chérir, quelque chose à respecter, à valoriser. Mais nous n'avons pas besoin d'être dupes. C'est Maya, c'est juste le samsara. Il y a une dimension beaucoup plus vaste que nous pouvons toucher à chaque fois que je suis là et à chaque fois que j'évite de tout prendre personnellement. Et que je regarde l'autre sans oublier qu'il a aussi en lui un potentiel humain de libération. Je vais finir avec une parole de Nelson Mandela. J'en ai une autre plus longue, mais je crois que ça va là quand même. N'exagère pas. Notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur. Notre peur la plus profonde est que nous sommes puissants au-delà de toute limite. C'est notre propre lumière et pas notre obscurité qui nous effraie le plus. Nous nous posons la question : qui suis-je pour être brillant, radieux, créatif et merveilleux ? En fait, qui êtes-vous pour ne pas l'être ? Vous êtes un enfant de Dieu. Vous restreindre, vivre petit, ne rend pas service au monde. L'illumination n'est pas de vous restreindre pour éviter d'insécuriser les autres ou pour éviter de vivre. Nous sommes nés pour rendre manifeste l'éclat de Dieu qui est en nous. Cet éclat ne se trouve pas seulement chez quelques élus. Il est en chacun de nous. Et au fur et à mesure que nous laissons briller notre propre lumière, nous donnons inconsciemment aux autres la permission de faire de même. En nous libérant de notre propre peur, notre présence aide automatiquement les autres et le monde à devenir libres.